La révision des lois sur la conservation de la nature est devenue indispensable à l'ère du réchauffement climatique et de la disparition de certaines espèces animales et végétales. C'est l'affirmation de certains participants aux travaux de validation de l'avant-projet des lois relatives à la protection de la faune, flore et forêt en République démocratique du Congo. Plus d'une personne ose saluer cette initiative. Cependant, elle se demande si ces nouvelles lois vont tenir compte des desiderata des populations autochtones. Celles-ci ne tirent souvent pas des bénéfices de l'exploitation de ces ressources environnementales. Nous allons parler avec Tati Mapoukou. Tati, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Guerre.
Alors, qu'est-ce qui a motivé les autorités à organiser ces assises?
En fait, de l'avis de certains spécialistes, le texte réglementant pour l'heure le secteur de la conservation de la nature est inadapté aux réalités écologiques actuelles et contre-productif GR. Selon toujours ces derniers, sa révision est indispensable parce qu'elle permettra de gérer rationnellement le secteur de l'environnement. Ce constat a été fait au cours des ateliers d'interformation organisés par le ministère de l'Environnement à Mwanda, Mbandaka, Goma et Xangani. Voilà pourquoi, du 11 au 14 août 2008, le ministère de l'Environnement s'appelle, en collaboration avec l'Institut national de la conservation de la nature, à réviser toutes les lois qui régissent les secteurs de la conservation de la nature selon les recommandations élaborées par les acteurs locaux.
Est-ce que vous avez pu contacter quelques habitants, certains habitants de quelques provinces?
Tout à fait, JGR. Nous étions à la fois dans la ville de Mwanda et de Butembo où nous avons abordé cette question avec certains opérateurs forestiers et avec la population.
Réglementer les espèces de l'écologie, c'est une bonne chose.
Mais... Bah, alors, qu'est-ce que tu dis concrètement ces gens parce que vous les avez quand même abordés, non?
Il faut dire, Gérard, d'abord que la population et les opérateurs forestiers, de pêche et autres secteurs de l'environnement se disent très satisfaits de l'initiative. Mais la population que nous avons contactée par téléphone à Mwanda déplore le fait que les autorités œuvrent souvent des connivences avec certains opérateurs du secteur. Ils souhaitent que ces lois qui sont en examen puissent tabler sur la gestion rationnelle des ressources environnementales. Écoutons le propos de cet habitant de Mwanda.
Bon, réglementer les secteurs de l'écologie, c'est une bonne chose si les gouvernements s'inscrivent dans la logique de la gestion durable des ressources naturelles. Car, comme vous savez, les ressources naturelles sont justement des potentiels épuisables. Et que si on ne les exploite pas de façon rationnelle, ces ressources naturelles ne vont même pas apporter ces exploitations que l'État peut opérer. Doit être le développement socio-économique qui traîne des populations à la base. Nous savons que le secteur forestier a maintenant une loi qui les régit, c'est le code forestier. Mais bon, nous savons que aujourd'hui, il n'y a pas encore des mesures d'application qui accompagnent tous les prescrits du code forestier, surtout dans sa phase d'application. Mais nous pouvons dire que si l'État a des soucis de contribuer ou de veiller à ce que les ressources naturelles puissent apporter un développement durable, il a justement ses devoirs, et ses devoirs impérieux de mettre en place des lois qui puissent réglementer tous les secteurs. Mais aujourd'hui, nous déplorons le fait que nous avons plutôt l'impression que l'État a parfois parti avec les exploitants qui foulent au pied toutes les lois en la matière sans un souci de gestion durable des ressources-là.
Ben voilà, alors Tati, ces assises sont-elles importantes pour la population qui vit dans l'arrière-pays?
Tout à fait, JR. Ces forums devraient proposer des lois qui vont concilier les exigences et la conservation de la nature selon les normes internationalement reconnues parce que la gestion de l'écologie concerne actuellement l'humanité entière. Il faut aussi tenir compte de la population riveraine de toutes les zones d'exploitation. Si le souhaite cet habitant de Mwanda, que nous vous prions d'écouter.
Dans notre pays, l'environnement n'est pas géré. Quand on voit la pollution, quand on voit la déforestation, quand on voit la disparition des espèces rares, même dans le domaine des arbres, là nous sommes déjà dans le domaine de la forêt, et le tourisme, notre pays, comme si le tourisme n'existe pas, comme si le tourisme ne faisait seulement les hôtels, prendre la taxe des hôtels et puis le transport des gens. Mais notre pays est l'égorge des ressources. C'est comme ça que cette loi qui n'a pas tenu compte de toutes ces réalités n'est pas utile. Je soutiens que cette vieille loi soit changée et que, bien que changée, mais qu'on tienne compte cette fois-là de toutes ces réalités et que cette loi réponde au projet de développement de l'eau. Et quand on désenclave le milieu rural, on tient compte des routes de recherche agricole, on tient compte des routes qui lient les centres urbains au village, on tient compte des marchés villageois, on tient compte du renforcement de la production locale agricole du villageois, on tient compte de que le village attire, que la ville arrête d'attirer les paysans, mais que le village attire ceux qui sont en ville, qui n'ont rien à faire en ville. Et même ceux qui sont étudiés, qui sont formés, que les investisseurs soient attirés par le village.
Et bien, encore tous ces propos, on retient que l'exploitation des ressources environnementales n'est pas au bénéfice de la population. Mais alors, à Moanda, par exemple, il y a quand même des pêcheries et autres sites touristiques.
Tout à fait, J.R. En quoi ce que dit la population, elle ne bénéficie vraiment pas des ressources écologiques qui sont exploitées par certains opérateurs, que ce soit forestiers, de pêche et autres. Nous vous laissons suivre le témoignage des 7 habitants des Bois.
Non, la population ne bénéficie pas. Parce que c'est comme un droit qui est confisqué par tout le monde là qui vient travailler dans ces domaines de l'environnement, pêche et tout. Donc on confisque le droit des habitants des autochtones, quoi. Ils ne bénéficient en rien de tout ça. Il faudrait qu'on tienne compte aussi de la part de la population.
En faisant quoi, par exemple?
Si on pouvait peut-être que la population reçoive toujours un pourcentage par rapport à toutes ces activités qui sont organisées. Si je prends l'exemple de la cité de Moanda. La cité de Moanda, il y a plusieurs compagnies qui font l'extraction du pétrole et d'autres... oui, il y a aussi la poissonnerie, oui. Mais en quoi cela profite à la population? La cité de Moanda n'est pas électrifiée. La cité de Moanda, on ne retrouve pas, il n'y a pas de route. C'est la cité de Moanda, l'eau est difficile. Est-ce que vous croyez que la population profite de tout cela? Non. Quelque part, on doit que la population vraiment puisse se retrouver. S'il y a un pourcentage qui est alloué à cette population-là, je crois qu'elle sera quand même contente de bénéficier de toutes ces richesses qui sont locales, en fait.
Alors, vous avez, Tati, pu également contacter ceux qui investissent dans ce secteur, parce que c'est santé, qui sont mis à la barre. Qu'est-ce qu'ils pensent de la révision des lois devant régir le secteur de la conservation de la nature?
Tout en saluant l'initiative, certains entrepreneurs dans ce secteur déplorent le fait que la révision des titres fonciers ne vise que les grands exploitants qui, pour la plupart des cas, coupent les bois sans pour autant prévoir les reboisements GR. C'est ce que nous dit M. Robert Vicarno, un des exploitants forestiers de la province du Nord Kivu. Écoutons-le.
À notre niveau, nous trouvons que ce n'est que normal de clarifier la situation des garanties d'approvisionnement avec investissement en concession forestière. La seule chose que nous pouvons déplorer, c'est que ces mesures ne concernent que les exploitants industriels et non les exploitants artisanaux. Dans la région ici, par exemple, bon, nous autres, nous avons 80 000 hectares de garanties d'approvisionnement à convertir, mais dans la région, les exploitants artisanaux exploitent plus de 2 millions d'hectares et qui ne sont pas concernés par ces mesures. C'est même indispensable de réglementer ce secteur de façon à pouvoir pérenniser les espaces forestiers. Parce qu'à partir du moment où on fait des coupes à blanc et qu'on détruit systématiquement la forêt, d'abord pour le bois d'œuvre et ensuite pour le bois de chauffage et que les sols sont mis à nu, il est très difficile de revenir à une forêt primaire.
Voilà, donc c'est un constat qui est presque évident dans toutes les zones d'exploitation, mais est-ce que cela a quand même pas un impact sur l'écologie environnementale?
Effectivement, J.R., la déforestation de l'espace vert a un impact très négatif sur l'environnement, mais il faut dire qu'il n'y a pas que ces opérateurs qui sont à la base de cette situation. Il y a aussi la population qui utilise abusivement la faune, la flore et la forêt. Nous pouvons prendre, par exemple, les cas de la coupe des arbres pour en faire les bois de chauffage, les non-respect de l'horaire de pêche et des chasses. Donc, il est aussi important que la population apprenne à gérer les produits qui lui génèrent la nature. Nous vous prions d'écouter ce témoignage sur les conséquences de la déforestation à Moanda.
La déforestation peut avoir une implication sur le climat. Au niveau de Moanda, c'est une zone qui a une partie forestière, mais aussi qui a l'océan, les fleuves, comme vous le savez, c'est tous les écosystèmes qui contribuent beaucoup au maintien ou à la dégradation du climat. Et par rapport à Mwanda, il y a les parcs marins des mangroves, et les mangroves est un écosystème particulier qui contribue grandement au maintien du climat dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, la pression qu'exerce la population, vous savez, toutes nos entités, nos villes, nos cités sont en train de se développer. La progression démographique fait qu'aujourd'hui, la population exerce une pression sur ces écosystèmes. Ça, c'est un cas. Deuxième cas, tout autour de Mwanda, il y a aussi des forêts. Et comme vous le savez aujourd'hui, il y a des exploitants forestiers qui exploitent dans ces forêts-là. Et l'État conseille, par exemple, des concessions forestières à certains exploitants. Et ces exploitants, on les voit au mépris, par exemple, des lois qui régissent les secteurs forestiers. Et ça aussi, c'est un autre problème qui contribue à la déforestation, qui a un impact notable sur les climats de la région.
Voilà, Fatih, à moins que vous ayez un autre élément à ajouter, sinon on s'arrête là.
On s'arrête là, à AGR. À très prochainement.
Merci.
Chaque jour, il se passe quelque chose dans votre vie. Chaque jour, vous affrontez des difficultés. Chaque jour, vous vous posez des questions. Chaque jour aussi, vous voyez naître de nouvelles solutions. Le Capi Express sur Radio Capi est là pour partager vos préoccupations. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 10h, par des chercheurs. Nous répondons à vos interrogations, nous vous proposons des invités pour trouver des solutions. Au Capi Express, pour agir ensemble, Radio Capi, pour vous rendre compte.
Voilà, nous avons dans ce studio Boniface Biémé, directeur scientifique de l'Institut national de conservation de la nature. Monsieur Biémé, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui on parle de la révision de la loi sur la conservation de la nature. Est-ce qu'on peut dire que ceci tombe à pic, parce qu'il y a eu effectivement des failles, qu'on veut remettre les choses dans l'ordre, ou peut-être c'est par question de pouvoir s'adapter à l'évolution sociologique?
Ok, merci. Avant de vous répondre, je voudrais préciser quelque chose. L'institut s'appelle l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. Et que, bon, moi, en tant que directeur scientifique, mais j'interviens ici en ma qualité de président du comité chargé du processus de révision de la loi 69-041 portant conservation de la nature. Alors, par rapport à votre question, je crois que au niveau du gouvernement, par le biais du ministère de l'Environnement, il y a eu un plan qu'on appelle plan forêt et conservation. Par rapport à ce plan, on avait établi des problèmes, on avait relevé des problèmes qui étaient cruciaux et qui étaient reconvertis en des priorités au niveau du ministère. Et ces priorités ont été, ont été élaborées dans un agenda prioritaire. Parmi les priorités, on a réalisé le fait que la loi sur la conservation de la nature actuelle avait certaines failles et qu'il fallait réviser cette loi. Voilà.
Voilà, donc il fallait vraiment réviser. Combien de participants ont eu à apporter leur contribution à cette réflexion?
Bon, c'est un long processus, parce que nous avons décidé que par rapport à cette révision, il fallait mener un processus participatif. Alors, je vais peut-être le résumer. Le processus prévoyait le premier aspect, l'élaboration d'un avant-projet de loi par un consultant national. Le deuxième aspect était que l'ICSM déjà entreprend des consultations à la base en termes des ateliers interprovinciaux et que les conclusions ainsi que les recommandations découlant de ces ateliers devraient être versées auprès du consultant qui avait la charge de rédiger l'avant-projet de loi. Alors par rapport à ça, vous voyez, nous avons démarré depuis 2005 et c'est maintenant qu'on tend vers la fin, mais c'est pas vraiment la fin, parce qu'on est presque vers la fin, parce que le processus doit continuer. Après l'atelier, il y a les projets de loi qui doivent être transmis au ministre de tutelle, et à ce niveau-là, c'est l'appropriation du gouvernement de cet outil qui va encore poursuivre le processus jusqu'à aller au niveau du Parlement.
Oui, mais quand on parle de l'environnement, c'est une vaste forêt au sein de laquelle il y a pas mal de domaines. Cette initiative s'attaque exactement à quel domaine? Est-ce que c'est sur le sol, le sous-sol? On se retrouve pas ou c'est l'hydrographie? C'est quoi exactement? Quel secteur est souvent visé par cette révision de loi?
Ok, je parlais du plan forêt et conservation. Alors, la conservation, comme vous voyez, on conserve toutes les ressources naturelles. Je peux résumer en ceci, que lorsqu'on fait la conservation, on s'intéresse aux espaces et aux espèces. Alors, par rapport à ça, lorsque vous devrez vous intéresser aux espaces, c'est-à-dire ériger un espace comme une aire de protection, de conservation, alors tout ce qui est dans cet espace, que ce soit l'eau, sol, forêt, savane, espèce, est concerné par la conservation. Et même les ressources naturelles non renouvelables comme les mines ou même les produits hydrocarbures.
Alors chaque secteur a au moins un code qui réglemente les secteurs. Comment allez-vous trouver un terrain d'entente pour ne plus que par rapport à ces projets, que ces projets puissent tenir compte des réalités de chacun de codes forestiers, codes miniers, codes pétroliers qui déjà viennent d'être en gestation.
Oui.
Alors, comment vous allez faire pour réunir et puis trouver un terrain d'entente sur tout ça?
Bon, j'aimerais, à travers votre radio, préciser quelque chose. Ici, en RDC, je crois que nous utilisons le mot code à tort et à travers, parce que le code veut dire un ensemble de lois dans un secteur. Donc on ne peut pas avoir un code si vous n'avez pas plusieurs lois dans le secteur. Ça c'est très important à préciser. Alors par rapport à votre question, je dis que nous, la conservation, nous sommes un sous-secteur de l'environnement. Alors, par rapport à sous-secteur, il revient à l'État de réglementer. Et dans certains pays qui sont très avancés, il y a une politique d'aménagement du territoire où l'État doit déjà déterminer quelles sont les zones à conserver, quelles sont les zones à exploiter ou les zones réservées pour l'exploitation des hydrocarbures ou pour l'exploitation minière ou pour l'exploitation forestière. Et c'est par rapport à ça que les codes miniers et les codes forestiers trouvent leur justification. Mais comme j'ai dit, là aussi, il faut voir, est-ce que lorsqu'on dit code minier, il existe des lois qui sont rassemblées dans ce code? Ça, c'est une autre question.
Je ne sais pas.
Alors, pour nous, si maintenant l'État, dans sa politique d'aménagement du territoire, de gestion de l'espace national, décide que nous voulons avoir des zones de conservation, donc, c'est ça l'importance, maintenant l'intérêt de notre loi ici, qui est une loi sectorielle, je dirais. Parce qu'elle ne concerne que le sous-secteur,
oui, parce que la conservation. Oui, la conservation, mais c'est comme nous disons, on n'aimerait pas qu'un jour, que nous nous retrouvons en face d'un certain télescopage. Disons, d'aucuns vont se scanner au port en disant que nous dépendons du code minier, et les autres vont juste brandir les codes forestiers, et d'autres encore, faire autant avec les codes pétroliers, et pratiquement, la loi que vous allez mettre sur les chantiers, donc, risque de souffrir de l'applicabilité.
Pas du tout. Pour un État qui se veut un État, une nation, toutes ces lois ou tous ces codes ont comme référence la Constitution, qui est la loi de base du pays. Donc, chaque code ou chaque loi qui doit être élaborée dans ce pays doit avoir des références au niveau de la Constitution. Si, par exemple, vous avez une Constitution qui ne prévoit pas la conservation dans le pays, eh bien, vous ne pourrez pas non plus avoir une loi en matière de la conservation.
Donc, je crois parlons de cette loi, ou de ces lois. Là, déjà, nous avons les grands exploitants, donc les industriels, montent déjà en créneau pour dire que l'avant-projet de loi s'attaque beaucoup plus aux grands exploitants. On ne met pas l'accent sur les exploitants artisanaux, et pourtant, ce sont eux qui exploitent, disons, un nombre important d'hectares.
Oui, je crois que là, déjà, vous avez un peu outrepassé mon domaine, mais mon collègue vient, mais je peux quand même répondre en disant que par rapport aux interviews que nous avons suivies ici, il y a des préoccupations. Les préoccupations sont fondées par rapport au code forestier. Lorsqu'on parlait des exploitants, on prend en compte les exploitants industriels et non artisanaux. Mais là aussi, je crois qu'il y a une réponse. Parce que dans le code forestier, on a prévu des forêts des communautés qui doivent être gérées par des communautés. Et c'est dans ces forêts-là où l'on va justifier l'exploitation artisanale. Donc là, je pense que...
Mais alors, faut-il commencer par aménager ces forêts communautaires?
Oui, c'est pour cela qu'il y a déjà les processus en vue pour établir les zonages forestiers au niveau du territoire national. Bon, par rapport à ces préoccupations, il y a des préoccupations qui touchent directement le secteur de l'environnement. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a une loi cadre en chantier sur l'environnement. Je crois que ces préoccupations ne touchent pas directement la conservation, mais dans une certaine mesure, du fait que s'il faut conserver, on doit tenir compte aussi de la survie ou des droits d'exploitation des populations qui sont à côté des populations riveraines.
Oui, Boniface Bienné, nous rappelons que vous êtes directeur scientifique de l'Institut Congolais pour la conservation de la nature. Alors, on a retenu deux éléments. Vous avez parlé notamment de la protection des milieux naturels.
Oui.
Et par là, on voit les réserves naturelles et les parcs nationaux.
Oui.
Aujourd'hui, nous savons qu'il y a un grand problème à ce sujet. Alors, qu'est-ce que vous avez eu à prendre comme décision à l'issue de ces assises?
Oui, c'est-à-dire que par rapport à la loi qui est en gestation, nous avons tenu compte en termes d'innovation par rapport à l'ancienne loi pour prendre toutes ces préoccupations en compte. Parce que nous avons vu que dans l'ancienne loi qui était très lacunaire, cette loi ne parlait que des réserves intégrales, naturelles intégrales. Et par rapport au statut des parcs nationaux, c'était des réserves intégrales. Mais aujourd'hui, là aussi, les choses ont évolué. Un parc national aujourd'hui ne peut pas être considéré comme une réserve intégrale. La réserve intégrale veut dire une réserve scientifique. Alors, dans cette loi, vous allez voir, vous pouvez aussi avoir l'amabilité d'avoir une copie parce que le processus est participatif. Il y a tout un chapitre qui essaye de donner une typologie par rapport au type d'air protégé et lesquels le pays va prendre en compte pour établi dans notre pays et élaborer les mesures de gestion et d'application par rapport à la conservation. C'est comme ça que nous allons résoudre ce problème des parcs nationaux, des réserves intégrales ou des réserves de chasse ou d'autres réserves communautaires s'il faut les avoir.
Oui, parlons des parcs nationaux, des réserves naturelles. Nous savons tous que, bon, il y a eu pas mal de confirmés dans notre pays et aujourd'hui, est-ce que... On peut encore parler de réserves naturelles. Est-ce qu'il y a encore des parcs nationaux en RDC?
Mais ça existe, c'est dans quel état?
C'est ça.
Ok, c'est une question très très pertinente. Mais je vous réponds tout de suite que, en dépit de tout ce que nous avons connu comme conflits armés, nous avons encore des réserves. Nous avons encore des réserves naturelles ou aires protégées, parce que même les parcs nationaux. Mais ce qui est vrai, c'est que ces aires protégées ont connu des grands dégâts par rapport aux conflits armés. Et je peux encore souligner le fait que nous avons connu une diminution sensible d'espèces, mais on n'a pas encore signalé une disparition d'une espèce suite aux conflits armés. Donc on a encore des réserves, on peut parler de réserves naturelles, on peut parler des parcs nationaux, mais qui sont en dégradation.
Oui, parce que vous dites qu'on a signalé une baisse,
oui.
Mais ce n'est pas une disparition, mais que vous avez seulement des moyens pour arriver à faire un contrôle précis. Aujourd'hui, la plupart des gens sont pratiquement prêts à affirmer qu'il n'y a plus de parcs nationaux en RDC.
Oui, c'est, ça c'est
il n'y a plus de parcs nationaux, il n'y a plus d'espèces dans ces parcs.
Non, madame. Ça, c'est comme a dit le ministre des hydrocarbures tout à l'heure, là. Il y a des experts qui sont spécialistes d'affirmer des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Nous avons bien des parcs nationaux.
Sans espèces.
Non, voilà ce qui s'est passé pour notre pays, la chance pour notre pays. Pendant les temps troubles, pendant les conflits armés, dans nos parcs nationaux et autres réserves appropriées, on avait des partenaires, des ONG internationales. qui étaient présents dans ces parcs nationaux.
Aujourd'hui, qui ont quitté
ça. Qui apportaient des appuis. Ils sont là. Jusqu'à ce jour, ils sont là. Et c'est grâce à ça que nous pouvons encore parler des parcs nationaux et des aires, d'autres réserves naturelles. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont connu des dégâts, qui sont dans un état de dégradation, et maintenant, il nous faut beaucoup de moyens en termes de logistique.
En tout cas, pour prendre un exemple, trop précis, pour l'auditeur, dans quel état se retrouve aujourd'hui le parc de Virunga, par exemple?
Bon, par exemple, le parc national de Virunga, l'état actuel, on peut dire que il a encore toutes ces espèces, comme je dis. Mais en grande diminution, si vous prenez les hippopotames, qui étaient avant la guerre à 30 000, aujourd'hui on a des nombres, peut-être 2 000, 3 000, vous voyez. Alors, par rapport aux infrastructures, c'était le parc qui avait le plus bel hôtel, je crois, en Afrique centrale ici. Toutes ces infrastructures hôtelières ont été détruites. Alors, autre effet des conflits armés, il y a eu même des populations des pays voisins, comme les Ougandais, qui sont venus, qui ont occupé une partie de ces parcs, et avec de bétail. Voilà. Il y a aussi des populations locales qui n'ont plus voulu respecter les limites du parc, suite à tout ce qui s'est passé, parce que vous savez, les rébellions s'étaient régées aussi en des gouvernements. Et qui gérait de l'air
avant la guerre, est-ce que le tourisme participait à combien de pourcents dans la recette des trésors publics?
Bon, je ne peux pas vous parler en termes de pourcentage, mais je peux vous affirmer qu'avant la guerre, l'ICSN était parmi les entreprises publiques qui contribuaient même à la facture pétrolière de l'État. Donc, ça veut dire qu'on avait quand même des apports importants en termes de revenus, en termes
de... Mais pendant la guerre, donc, c'était difficile.
Pendant la guerre, vous savez qu'on avait plusieurs étapes.
Et maintenant, nous sommes un pays post-apocalyptique.
Bon, maintenant, nous reprenons, mais on est encore à un niveau plus bas. Oui.
Et voilà, alors, nous avons également dans ce studio Bundu Masamba, directeur de Bundu, voilà. Bundu Masamba, directeur juridique au ministère de l'Environnement. Quel est... Bonjour, monsieur Bundu. Alors, si on peut parler en termes clairs, quelle est la vraie problématique de l'environnement en RDC?
Ben, la problématique de l'environnement, il faut d'abord dire que nous avons un environnement qui est tout à fait différent des environnements en général. La problématique, c'est que la République démocratique du Congo est encore pratiquement en déphasage avec ce qui s'est pratique sur le plan international. Je vais donner une explication. Depuis 1975, il y a eu la conférence de Stockholm. Et là, on a senti la nécessité, justement, de pouvoir repenser la gestion du milieu ambiant de l'homme. Donc, on est parti du concept de l'hygiène publique, salubrité publique, au concept environnement qui est plus globalisant. Et depuis lors, il fallait absolument adhérer à plusieurs conventions internationales et la conséquence, c'est que sur le plan interne, il fallait prendre un dispositif juridique approprié pour soutenir ce mouvement. Malheureusement, nous sommes en déphasage, c'est-à-dire que depuis lors, nous cherchons comment avoir un cadre légal approprié pour pouvoir soutenir la politique de gestion.
Oui. Alors aujourd'hui, on parle de la révision de la loi sur la conservation de la nature. Quand on parle révision, c'est-à-dire on passe par une fin de toutes les lois existantes, parce qu'elles ont peut-être accusé que certaines failles. Concrètement, vous, en tant que spécialiste en la matière, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on a reproché à l'ancienne loi?
Ok. Bien, d'abord, le premier reproche, je vous informe que je rectifie ce que j'avais dit à l'un de vos collaborateurs, que j'étais disposé à parler même de l'ensemble du secteur de l'environnement. Alors, la première chose que nous sommes en train de faire, c'est d'avoir une loi cadre sur l'environnement. Et la loi cadre doit être le socle de toutes les dispositions particulières qui peuvent suivre, notamment la loi sur la conservation de la nature. Et donc, en raisonnant de cette manière-là, vous comprenez que notre législation en matière de conservation de la nature n'avait pas un socle où on donnait les principes fondamentaux de la gestion. Maintenant, pour voir le domaine particulier de la conservation de la nature, cette loi, c'est la loi 0-49-41 du mois d'août 69. Mais cette loi-là, c'est limité, justement, comme disait le directeur, à ne circonscrire que la question des parcs nationaux. Et encore, en faisant une réserve naturelle intégrale. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une conception dynamique, comme je disais de l'environnement.
C'est tout ce qui a eu l'évolution sociologique.
Oui. D'autant plus que, pour nous, l'environnement ne se limite plus seulement à gérer l'espace urbain. Mais il faut plutôt voir la problématique de la gestion des ressources naturelles. D'autant plus que, nous, dans notre pays, nous, notre milieu ambiant, c'est fait non seulement de ce que nous construisons, mais de ce que nous trouvons dans la nature.
Mmh. Là, je reviens encore sur la question que j'avais posée au directeur tout à l'heure. Est-ce que vous ne risquez pas de vous retrouver un jour face à plusieurs lois? C'est-à-dire parce qu'il y a vous avez ça un peu du cadre. Il y a la loi minière, il y a la loi forestière, il y a la loi pétrolière qui est d'ailleurs en gestation, et il y aura bientôt la loi sur la conservation de la nature. Bref, tout ça, ça englobe l'environnement. Est-ce qu'il n'y aura pas de télescopage?
Non, justement. Justement, télescopage,
il va y avoir toutes ces lois.
Sur le plan pratique, je dois vous avouer qu'il y aura télescopage, ça c'est bien sûr. D'autant plus que la loi cadre qui sert de socle de ces lois-là n'existe pas. Et donc, nécessairement, il y a de ces lois particulières qui sont allées à l'encontre des principes de ces
autonomes. Alors, en amont, il a été question, l'idéal serait de pouvoir d'abord retrouver tous ceux-là, dans toutes les structures, ou tous les domaines qui sont concernés dans l'environnement, notamment les mines, la forêt, la conservation de la nature, et tant d'autres, pour que vous mettez d'abord d'accord sur la loi 4, au lieu de travailler les lois
d'une manière
séparée.
On y travaillerait dans les processus. Par exemple, pour le moment, nous sommes encore au niveau du ministère, où nous sommes en train de une fois de se construire vraiment l'instrument lui-même, on va aller
au niveau des hydrocarbures. Il y a des assises qui ont été organisées, et bientôt ils vont soumettre au Parlement. Ça sera pareil avec la loi sur la conservation de la nature. Alors toutes ces lois vont se retrouver au Parlement, et bon, est-ce que le Parlement sera même de voter une loi cadre, ou peut-être vous retrouvez encore, ou peut-être vous allez le faire, je ne sais pas comment vous allez vous y prendre.
C'est-à-dire, si le plan pratique, qu'est-ce qu'on fait? Comme il faut aller plus vite en besoin, chaque texte est mis en concertation entre parties prenantes et chacun voit exactement comment les préoccupations se rencontrent, notamment eu égard à la nécessité de sauvegarder l'environnement. Par exemple, maintenant, effectivement, comme vous avez dit, il y a beaucoup de lois qui sont en élaboration. Par exemple, là, aujourd'hui, par exemple, nous nous sommes invités à la loi sur les hydrocarbures parce que nous devons nous concerter justement pour pouvoir voir comment cette loi-là, ce projet-là, respecte les sauvegardes de l'environnement.
Mmh.
Et nous avons aussi la loi sur l'eau. Nous avons la loi. Le seul problème qui nous préoccupe, c'est la loi sur les sociétés minières qui est déjà en cours.
Mmh.
Mais comme nous avons la prétention de faire de la loi cadre, nous disons que c'est une loi cadre de l'environnement, et donc c'est la loi qui doit être le socle de toutes les autres législations de loi. Nous allons faire en sorte que cette loi-là puisse venir harmoniser, arrondir les angles dans les secteurs où il y a des...
Et là, il faudrait également penser déjà au mécanisme de suivi, pouvoir constituer le garde-fous pour l'applicabilité effective de ces lois ou des lois cadres de l'environnement.
Vous avez raison, mais nous faisons en sorte que dans cette loi-là, nous puissions concevoir un cadre institutionnel qui puisse assurer la concertation entre les partis.
Oui, je vois, monsieur le président. Je voulais quand même ajouter un petit détail. Toutes ces lois, qui sont des projets de loi pour les gouvernements, avant de les transmettre au Parlement, il y aura toujours des commissions interministérielles. C'est là qu'on
va
vraiment voir à la loupe là où on peut avoir
des... Donc, on peut dire que la révision de la loi sur la conservation de la nature et les assises, on a déjà clôturé les assises.
Sur la conservation, c'est en ce moment qu'on démarre pour la validation. Mmh. Pendant deux jours, du 11 au 12, même hier, c'était les travaux d'experts, comme les juristes et les spécialistes, d'autres spécialistes attitrés à la matière.
Donc, ça va se poursuivre.
Oui, qui ont examiné les projets de loi qui étaient élaborés par les consultants. Ils ont apporté leurs amendements, leurs avis, et aujourd'hui, maintenant, on va présenter les textes harmonisés.
qui consulta avec les amendements apportés par les différents participants, qui va être soumis à la validation par une assemblée beaucoup plus large, où il y a les délégations des provinces et en tête les ministres provinciaux.
Donc vous avez encore un mois.
Non, pas un mois, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui seulement qu'on pourrait tout expatrier. D'accord, alors on verra comment les choses vont évoluer de ce côté-là, et surtout nous ne manquerons pas de vous encourager dans cette démarche et pour voir un peu l'aboutissement heureux de la mise sur pied de ces lois ou de cette législation qui va réglementer les secteurs de l'environnement. Merci à Voulou Massamba, directeur juridique au ministère de l'Environnement. Merci à vous également, Boniface Lélé, directeur scientifique de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. À la prochaine.
Merci à vous.
Chaque jour, il se passe quelque chose dans votre vie.